Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, 9h06, les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est très heureux d'être avec vous le samedi, le dimanche matin. C'est le dernier jour des vacances avant la reprise demain. Si vous êtes sur la route, évidemment, faites très attention à vous. On vous accompagne durant ce petit déjeuner. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG. Malmené, le 15 de France s'impose sur le buzzer face à l'Australie. 11e victoire consécutive pour les Bleus, un record absolu. Est-ce une grande ou une petite victoire? Ce sera notre question. À 9h30, la punchline des GG, signée Zlatan sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. D'accord ou pas d'accord avec son analyse? Évidemment, vous l'écouterez. C'était chez nos confrères de Canal+. Et puis 10h, nous passerons la seconde autour d'Igor Tudor. En première ligne, après le chaos cette semaine sur la scène européenne, joue-t-il sa tête ce soir face à Lyon?
Je pense avoir fait une erreur. Je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure mardi soir. C'est le travail d'un coach. On fait tous des erreurs.
Ah, le mea culpa d'Igor Tudor. On en parlera donc à partir de 10h, le 32-16 évidemment, pour participer à cette émission. C'est la vôtre, chers auditeurs. Les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, comme Igor Tudor, joue sa tête chaque week-end. Simon Dutin, salut Simon.
Salut Christophe. Écoute, toujours là, souvent menacé, pas encore viré.
Voilà, et on est très heureux de t'avoir. Mais on ne sait pas si tu seras là le week-end prochain. Ça, c'est le flou, c'est ça, évidemment.
Faut délivrer à chaque match, voilà, attendu à chaque rencontre.
La pression
peut être bénéfique.
Exactement. Bravo, mon cher Simon. Une grande gueule qui, comme Igor Tudor, a rendez-vous lundi 14h avec son conseiller Pôle emploi, Sarah Pitkowski. Salut, Sarah.
Bonjour à tous.
Ça va, Sarah?
Oui. Alors non, je préférais être dans la position de Tudor. Bah, parce que j'ai fait un petit calcul. En CDD de 24 mois, ça ramasse quand même.
L'argent.
Ah bah oui, mais...
Voilà, l'argent. Voilà. Et que ça va, toi? Je veux l'argent. Nous, on est quoi? On est une émission de passion. On est une émission de passion.
Bien sûr,
donc.
Je suis très pragmatique.
Vous êtes payé pour faire cette émission?
Bah non.
C'est bénévole.
Bien sûr.
Alors, je vais peut-être te décevoir, mais je crois que je suis payé.
Oui, ça m'étonne pas de toi. Une grande gueule qui, comme Igor Tudor, ne s'est jamais qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut JC, salut les amis.
Bonjour Pascal.
Duprat, si on te confie l'OM ou le Paris Saint-Germain, Pascal Duprat, paf, il irait au moins jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça va, mon Pascal?
Écoute, ça va, j'ai passé un moment de sport merveilleux hier soir devant le 15 de France.
Ouais, on va en
C'était
parler
superbe.
Dans quelques instants. Petit teasing, évidemment. Et vous n'êtes pas d'accord sur cette question, ça va être magnifique. Et puis une grande gueule qui, comme Igor Tudor, n'a jamais remporté de trophée en Croatie. Mais en revanche, il a un sacré palmarès là-bas. Stéphane Brun, salut Stéphane.
Salut JC, salut tout le monde.
Ça va, mon Steve?
Oui, mais d'où tu sors ces infos, toi?
Écoute, on se connaît un petit peu maintenant.
C'est quoi le palmarès?
Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de succès avec la jante féminine. C'est là où vous voulez en venir, Jean-Christophe Drouet.
Oui, c'est possible. Mais c'était bien la Croatie.
Oui, c'était très sympa.
Tu as joué quelques mois, non?
Oui, 6 mois, oui, ça.
Tu y allais quand il y avait la Croatie ou tu y allais quand c'était la Yougoslavie?
Non,
parce qu'il y avait plus de choix.
Non,
il est pas si vieux quand même.
J'ai pas 85 ans, donc ça.
Moi, alors je suis très très vieille. Moi, j'ai joué, c'était la Yougoslavie. Il n'y avait pas la Croatie.
On ne voulait pas aborder ce débat sur ton âge, Sarah. Tu vois.
Aujourd'hui,
j'ai pas eu que les succès en Croatie. Hein. J'ai pris le râteau le plus légendaire de ma vie par Blanka Vlasic, la championne du monde en hauteur.
Tu peux nous raconter ou pas?
C'était ma voisine du dessus. Donc, de temps en temps, des soirées, elle m'invitait. Elle m'appelait Flansouz, ça veut dire français.
Je me doute bien.
Donc, une, deux, trois soirées, viens boire le café. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ça fait quand même beaucoup, Blanka. Je vais tenter une petite approche physique, recaler, rentrer à la maison. Merci, au revoir. Voilà.
C'est la routine. Parce qu'en fait, Franzous, ça veut dire gros lourd. En fait. Je ne vois pas du tout dire français. Très bien.
On va pas vouloir tenter ma chance.
En plus, tu es quand même un petit peu parti en catimini. Tu t'es parti parce que tu étais plus payé.
Donc, voilà, je suis parti. Je ne suis pas allé lui dire au revoir en partant.
Oui. Tu m'étonnes. Parfait. On va débuter avec cette citation de Bernard Weber qui a dit un jour, non pas l'inventeur du barbecue, Stephen, oui. Bernard Weber, l'écrivain, qui a dit « La défaite est novatrice, la victoire est conservatrice ».
La une des grandes gueules du sport.
Feu d'artifice au Stade de France. C'est parti pour ce France-Australie, début de la tournée d'automne.
Qui ne saute pas n'est pas français dans le Stade de France.
Et Christophe qui reste assis. Non.
Il a monté de Dupont sur le dégagement de Rissov. Mathieu Jalibert qui remonte ce ballon. Allez, il nous faut une étincelle ce soir. Oui. Le ballon pour Dupont. Dupont sur l'extérieur avec Jonathan Danty. Jonathan Danty qui va en percussion dans son style. On va de la gauche vers la droite avec Jolange qui était arrêté, par contre. Oui. Ce ballon au sol pour Dupont. On relève dans le dos de Jalibert. Jalibert sur l'extérieur pour Penon. Un contre un. Allez, Damien. Damien Penon, le raffut. Allez, Damien. Ouais, Laissez. Il fallait une étincelle. Elle est venue de Damien Penon. Sur cet extérieur, cette sautée Jalibert, un but, une accélération, et c'est Damien Penaud qui va nous sauver. La France mène 30 à 29.
La France est imposée, le coup de sifflet final qui va être donné avec ce dégagement de Mathieu Jalibert qui permet à l'équipe de France de s'imposer ici au Stade de France. C'est un miracle.
Et oui, une très belle soirée sur RMC avec Christophe Cessieux, Wilfried Templier aux commentaires et Denis Charvez pour son premier match de la tournée de novembre. Le 15 de France est donc imposé face à l'Australie hier soir, vous l'avez entendu, au Stade de France, 30 à 29, une victoire qui a été longue, très longue à se dessiner. Des Bleus en difficulté comme rarement dans l'ère Galtier, mais une victoire quand même. La 11e de rang, un record dans l'histoire du 15 de France, ça faisait 8 ans et qu'il n'avait plus battu les Wallabies à domicile. Mais la musique qui fout les jetons est cette question. Est-ce une grande ou une petite victoire ? Stéphane Brun.
Je vais partir sur la grande victoire, Jean-Christophe.
Simon Dutin.
Petite victoire.
Sarah Pitkowski.
Ah, je me mets à côté du grand Stéphane pour voter une grande victoire.
Pascal Duprat.
Pour une fois, je me mets au-dessus de Stéphane. Très grande victoire.
Trois grandes victoires, une petite victoire. Avant de débattre, on va retrouver donc notre voix du rugby sur RMC. Petite nuit, mais toujours très efficace. C'est Wilfried Templier. Bonjour. Bonjour Wilfried.
Bonjour messieurs, dames.
Wilfried, les Bleus parlaient de petite ou de grande victoire après le match ?
Bah déjà ils avaient les têtes un peu amochées parce que c'était un gros combat, ils étaient soulagés surtout de l'avoir emporté. Après comme souvent avec ces grands compétiteurs, hein, seule la victoire compte. Demandez aux Australiens qui au coup de sifflet final étaient soit un genou au sol, soit complètement allongé sur la pelouse, étaient anéantis par l'issue du match. Donc c'était surtout en fait un premier match de tournée après de longs mois sans se voir. C'est ce que soulignait le deuxième ligne Thibaut Flamand.
On est très fiers, on est très heureux bien sûr de ce que donnent les joueurs et très heureux aussi parce que notre travail est récompensé par ces résultats-là. On est encore une équipe, je regarde un petit peu l'expérience collective des équipes que l'on joue et l'âge moyen des équipes, on est souvent, voire tout le temps, la plus jeune équipe alignée et celle qui a encore une expérience collective encore en deçà des meilleurs. Donc on est sur un chemin qui est validé par les victoires, mais on a aussi une vision et une forme de cohérence dans ce que l'on fait. Donc voilà, ça nous encourage à continuer.
Vous avez compris que c'était pas Thibaut Flamand, c'était le sélectionneur Fabien Galthié qui parlait de la série des Français. Donc les Français ont un peu gagné moche, comme on dit. Voilà, mais l'arrière Thomas Ramos, qu'on va entendre normalement, retenait, lui, le caractère de l'équipe.
Bon. Ça arrive d'Australie, hein. Rassure-toi, Wilfried, tout va bien. Normalement, ça devrait arriver. Et si ça n'arrive pas.
Ça met un peu de temps. En gros, Français disaient qu'ils avaient souffert, qu'ils étaient tombés face à une très belle équipe. Allez, on l'écoute, Thomas Ramos.
On a souffert, je pense qu'on est tombé face à une très belle équipe, on le savait. Mais voilà, je pense qu'on a su aussi imposer notre jeu par moment. Tout n'a pas été parfait, on le sait, mais il faut aussi regarder le positif, ce qui a été de bien, nos réactions. Et cette fin de match où on a le caractère pour aller chercher cette victoire. Donc voilà, comme je te le dis, on est tombé face à une très belle équipe. On le savait, mais voilà, il y a la victoire au bout et je pense que c'est ce qui est le plus important.
Voilà, on retiendra aussi, peut-être, moche, grande victoire, petite victoire, qu'un soir de novembre 2023, cette équipe a établi le record de victoires consécutives du rugby français historique. Ça fait 11 de suite. Voilà, vous l'avez entendu, Fabien Galthié est très fier. Il parle de ce vécu commun qui n'est pas encore maximum pour cette équipe. Et c'est vrai, il dit vrai. L'année dernière, par exemple, les All Blacks, quand on les avait battus, ils avaient 3 ans et 30 sélections de plus que nous. Même chose pour le Grand Chelem avec les Anglais qui avaient deux fois plus de sélections. Donc ça en dit gros sur la marge de progression encore de cette équipe de France à un an de la Coupe du Monde.
Merci beaucoup Wilfried Templier pour toutes ces précisions. Tu restes avec nous pour le débat. Petite ou grande victoire, vous composez le 32-16. Chers auditeurs, on a très envie évidemment d'avoir votre sentiment sur ce match de l'équipe de France, du 15 de France qui faisait donc sa rentrée. Il y aura la semaine prochaine le match face à l'Afrique du Sud. Grande, petite victoire. Stephen, tu avais l'air emballé quand même. Grande victoire, pourquoi ?
Oui, emballé parce que moi j'ai envie d'aller sur les circonstances de ce match-là. C'est une équipe qui n'avait pas joué ensemble depuis 8 mois. C'était
c'était le début de la tournée automnale, puisque la dernière tournée au Japon, c'était pas cette équipe-là, c'était l'équipe B, qu'il y avait des garçons qui n'avaient plus joué depuis un moment, comme Romain Tamak, et il y avait des incertitudes sur Cyril Bailly aussi, que tu joues une équipe d'Australie qui est peut-être sur la fin de sa tournée internationale, mais qui vivent ensemble et qui jouent ensemble depuis le mois de juillet, puis ils ont fait le Rugby Championship, donc eux ils arrivent, ils sont plein badin, ils se connaissent par cœur, et puis tu t'aperçois que malgré tout ça reste des stats, mais cette équipe là elle est rentrée dans l'histoire du rugby français, avec ce record de matchs consécutifs sans perdre. Donc je trouve ça très fort, être capable de win ugly comme disent les Anglais, de gagner sans être très bon. Moi je trouve que pour un match de reprise c'est top de battre ces Australiens, surtout que les circonstances, eh ben, elles ont fait qu'on a été chahuté, que Antoine Dupont, tu t'aperçois que même si c'est le joueur, meilleur joueur du monde aujourd'hui, il est ciblé par les adversaires et que tu es capable de t'en sortir sans ton meilleur joueur, parce que hier il n'a pas été très bon Antoine Dupont, mais malgré tout tu gagnes, et que oui Antoine Dupont est le meilleur joueur de cette équipe, mais cette équipe de France, elle a d'autres joueurs qui tutoient les sommets. Damien Penaud, on en parle peut-être très peu, mais pour moi il fait partie des meilleurs joueurs au monde, il est fantastique l'essai qu'il met hier. Et puis voilà, on va monter en régime. L'Australie, c'est pas des peintres. Ils étaient au top physiquement. Donc moi, je trouve ça capable de s'en sortir alors qu'on joue pas très bien. Je trouve ça très fort. Tu t'aperçois aussi qu'un Thomas Ramos, peut-être qu'il va installer le doute dans la tête de Galtier, parce que tu sais que les absents ont toujours tort. Et Jaminet, bah quand il a regardé le match hier, s'est dit ah, il est quand même bon ce petit Thomas Ramos. Donc il y a des grandes satisfactions. Le retour de Charles Olivon qui a été fantastique sans le capitana. Donc moi, je trouve que c'est un beau match des Français hier.
Un beau match des Français, et tu retiens, et c'est souvent le débat que l'on a, tu retiens la victoire, eh oui, même si ça a été moins bon. Donc c'est une belle victoire pour toi. Petite victoire, Simon Dutin.
Ah oui, mais Stephen nous explique qu'on a gagné d'un point contre une Australie cramée grâce à un exploit individuel, et voilà, effectivement.
Cramé, tu nous as trouvé cramé, les Australiens pas...
Ah, ils sont un peu en bout de piste, ouais, nos amis australiens, je suis désolé, excuse-moi.
Ah ouais, moi, les avons dit comme l'équipe très faible.
Moi, j'ai appris à aimer le rugby à une époque où, que ce soit chez eux ou chez nous, on n'était jamais favoris contre les Australiens. Hier, effectivement, alors évidemment, le contexte a changé, on est favoris. Hier, j'ai vu les Australiens jouer le match que j'ai vu l'équipe de France jouer pendant des décennies, à savoir, bon, t'es l'outsider, tu marques un essai du bout du monde, tu cibles le meilleur joueur en face. C'est vrai qu'ils ont bien gâché la vie d'Antoine Dupont hier. On gagne d'un point grâce à 20 points d'un mec qui est pas dans les plans du sélectionneur, Thomas Ramos, qui effectivement lui a réussi son match. L'essai miraculeux de Penaud, alors certes formidable, miraculeux, évidemment,
mais miraculeux,
mais c'est un essai à la Colby, à la Lomu, à la Rocosoco, ça rentre pas dans les plans, de jeu, on n'a pas été bon en conquête, on n'a pas été bon dans l'exécution, très peu d'attaquants en première main, on n'a pas développé notre jeu, on a été mené toute la partie. Alors certes, et on a gagné. le scénario,
est-ce que je peux terminer,
vous êtes trois contre moi, vous me laissez terminer,
vous allez sur les 10 dernières minutes.
Sarah,
on a été dominé globalement tout le match, on s'est vu perdre ce match, et évidemment comme on est très attaché aux séries, aux records, on allait laisser échapper le record, donc formidable. On n'allait pas se fouetter au barbelé, évidemment. Évidemment que le Stade de France a exulté et a donné cette impression de grande soirée de rugby. Mais il faut arrêter les bêtises.
Mais t'es capable de retourner.
Mais
t'es capable de retourner des arguments, mais qui c'est fallacieux. C'est fallacieux.
Alors vas-y Sarah, et après tu pourras reprendre Simon et on va écouter Pascal.
Ce que je veux
dire,
c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à la physionomie du match, c'est ce qu'on a reproché pendant les 4-5 dernières années à l'équipe de France, c'est-à-dire de jouer super bien pendant 60 minutes et d'être cramé physiquement et d'être pas être capable d'enfoncer le clou. Là, en l'occurrence, on a peut-être une équipe qui joue pas très bien, mais comme les arguments que donnait Stephen, quand t'as pas joué ensemble depuis 8 mois, il te manque des réflexes. T'as effectivement un Thomas Ramos qui n'avait pas encore joué. T'as des joueurs qui reviennent de blessures. Mais le principal, c'est d'être capable d'avoir des fulgurances d'individualité et d'avoir un banc à la disponibilité de Galtier. Et encore une fois, on se place du côté des Français, mais on les regarde, les Australiens. Les Australiens, ils ont super bien joué en défense, ils ont très bien joué au pied, et c'est pas leur force. Donc en fait, ils avaient extrêmement bien préparé le match pour battre l'équipe de France. Et parce qu'on a une équipe de France en confiance, on est capable de retourner la situation, ok, dans les dernières minutes. Et gagner en jouant pas très bien, il y a une chose qui est intéressante là-dedans, c'est que ça permet à un collectif de garder la vigilance et ne pas surfer sur une forme de suffisance en disant, mais nous, on
C'est même mieux de ne pas avoir
mieux. Ouais, c'est bien.
Non, c'est pas mieux. C'est-à-dire que tu
encore mieux de perdre alors dans ce
cas-là. Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, quand tu es sur des victoires et que tu les enchaînes, tu peux avoir une surconfiance qui fait que tu ne donnes pas le petit coup de rein qui te permet d'aller chercher des victoires. Et cette vigilance-là, elle leur a permis de gagner. Et je pense que c'est aussi intéressant pour un staff de l'équipe de France d'avoir ce type de victoire.
Ok, la troisième lame avec Pascal Duprat et puis après Wilfried Templier. Et tu pourras de nouveau te défendre et enflammer le plateau.
Petite précision et petit tacle à l'adresse de Simon. Les Australiens, c'est les peintres ? Non, c'est une des grandes nations
Alors Pascal, il y a un immense connaisseur du rugby, tu peux me citer
Simon, je te jure, c'est pas des peintres.
Cinq joueurs australiens hier qui étaient titulaires hier.
Non, mais ça on a, j'aime pas ce truc-là parce qu'en plus...
Ah, on n'aime pas.
C'est pas ça, c'est que si tu me le fais à moi, je suis incapable de...
Alors, un top player australien, juste, messieurs, dames, un top player australien, un joueur australien qui est dans les 10 meilleurs joueurs du monde, on en est sûr de ça?
Non, mais on.
Ouais, mais en fait, comme c'est l'expression d'un collectif, d'un sport, voilà, collectif. Par excellence, le rugby, l'Australie est une grande nation de rugby.
Nous, on se gargarise pas d'avoir le meilleur joueur du monde, le meilleur troisième ligne.
Là aussi, Simon.
Skelton et Clarochelle, on me dit que c'est un des meilleurs joueurs du top 14.
Du top 14, ouais.
Il arrive en Australie, c'est ça.
Mais le top 14 est le meilleur championnat national du monde.
Pascal, sur la grande victoire.
Non, en fait, c'est d'une part parce que c'est un record, c'est la victoire qui consacre cette équipe, puisque jamais une équipe de France n'a réalisé 11 victoires consécutives. Déjà rien que par cet exploit-là, eh bien la victoire est énorme hier. Par la construction de cette victoire aussi, même si rien n'a été facile, l'équipe de France, comme rarement, fait beaucoup de fautes. Elle a concédé beaucoup de pénalités, donc ça montre qu'elle n'avait pas l'ascendant sur le match. La faute aussi aux Australiens, je le répète, qui ne sont pas des peintres et des faire-valoir, quoi qu'en dise Simon. Et puis aussi parce que qu'est-ce qu'on va chercher quand on regarde du sport? Là, je suis spectateur.
La dramaturgie.
De sport. De l'émotion surtout. Et de l'émotion, j'en ai parce que je m'aperçois une des premières fois où, Dupont est bien un humain. Donc ça lui arrive de passer à travers, donc c'est la première fois que je le vois passer à travers en équipe de France parce que l'équipe australienne l'a mise à mal et l'a mis en difficulté. Et puis aussi, c'est l'expression de ce collectif fait ressortir ensuite les individualités, tout l'inverse de ce que je vois dans un grand club de foot prestigieux français, à savoir le collectif fait ressortir les individualités. Et Penaud marque cet essai magistral parce qu'il a du talent. Donc l'équipe de France est juste géniale. Je ne suis pas quelqu'un d'envieux, je ne viens pas de ce sport-là, mais plus j'avance dans l'âge, plus j'aime ce sport et plus j'aime ses pratiquants. Voilà, c'est pour cette raison que je me suis enthousiasmé, enflammé devant ce match-là hier.
Et donc,
bravo l'équipe de France, c'est une très grande victoire. Et qui voilà. En appelle d'autres.
Une très grande victoire pour toi. Wilfried Templier et Simon Dutin voudraient réagir évidemment. Wilfried, vu du stade, toi qui étais le commentateur hier.
La difficulté pour les Français, c'est comme souvent un premier match de tournée. Thibaut Flamand le disait, le deuxième ligne de Toulouse disait qu'il fallait se reconnecter. Ils arrivaient de club, ils ont eu 2 semaines de préparation. Vous allez me dire, mais c'est toujours un premier match. On l'avait vu contre l'Argentine l'année dernière, et c'était la difficulté. Maintenant, on a tellement, vous vous souvenez des défaites encourageantes de la dernière décennie. On a tellement vécu ça que gagner moche, comme je disais, et aller chercher cette victoire malgré tout ce qu'il y a à redire sur le match, c'est très important pour l'équipe de France. Il faut non plus ne pas oublier tout ce qu'on a dit aussi sur le fait des temps de passage de l'équipe de France avant la Coupe du Monde, battre les All Blacks, faire le grand chelem, record de victoire, tout ça c'est un petit mur et Pascal en tant qu'entraîneur le sait, que vous construisez au fur et à mesure du temps dans votre équipe et ça vous renforce. Maintenant il y a beaucoup de choses à redire sur le match et ce sera certainement, on l'espère, validé par une belle victoire contre l'Afrique du Sud. C'est vrai que si on perd contre l'Afrique du Sud, il y aura un petit peu d'interrogation. Si, après une semaine de plus de travail, vous jouez les champions du monde, la dernière équipe qu'on n'a pas jouée, la dernière grosse équipe qu'on n'a pas battue, si on valide, on cause on coche pardon cette case la semaine prochaine à Marseille, ce sera parfait pour les Bleus dans la direction de la Coupe du Monde.
Donc si je comprends bien, pour savoir si c'est une petite ou une grande victoire hier soir, il faut attendre la semaine prochaine.
Oui, voilà, bah, ça c'est des artifices. Mais en même temps, mon camarade Wilfried Templier l'a dit, hein, je le cite, gagner moche, il l'a répété. Le miracle, ça sort de la bouche de notre ami Cessieux, qui est lui aussi un grand spécialiste ici de...
Non, il connaît rien.
De rugby. Moi, là où je suis pas d'accord avec Pascal, c'est que pour moi, une individualité comme Damien Penaud, c'est pas l'émanation de la force collective, c'est au contraire ce qui souligne, ce qui met en relief,
qui se défonce.
Non, mais attends, mais d'accord, mais non, mais vous allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit.
Ils terminent un match, ils sont bouillis.
On peut pas parler.
C'est exceptionnel ce que l'on voit. La débauche d'énergie des joueurs français, c'est exceptionnel. Le rugby montre à quel point il faut être au top physiquement. Regarde les quelques joueurs français, Baye par exemple, qui a pourtant fait un bon match, mais qui revenait après très peu de temps joué avec son club. Et Ntamack, pareil. Regarde comme ils ont été en difficulté. Ntamack, il a été en difficulté parce que physiquement, il est pas prêt.
Magnifique.
Tu te rends pas compte de l'exigence de ce niveau-là. Et à ce niveau, au rugby, réussir à gagner 11 matchs consécutifs internationaux, c'est juste extraordinaire.
Excusez-moi, parce qu'on va terminer par ce record. Je répète que pour moi, l'individualité, l'exploit individuel, il a souligné hier la défaillance du collectif. Wilfried vient de le dire, on s'est fait bouger comme très rarement. Moi, dans cette série de victoires, j'ai pas vu l'équipe de France souffrir autant. Que n'a-t-on pas entendu hier? On en était à nous dire, non mais attendez, les mecs, on les met, ils ont pas de rythme, mais c'est notre équipe premium. Et l'équipe premium, il faut la titulariser. C'est notre équipe premium. On a entendu tout ça. Alors, l'équipe premium, je suis désolé, elle s'est faite secouer par une équipe d'Australie assez moyenne. Le record, hein, formidable, évidemment, parce que là aussi, ça met un effet de loupe sur la victoire, mais ça empêche de parler du contenu. Dans ce record, on a battu deux fois le Japon, une fois la Géorgie, une fois l'Italie, une fois la Nouvelle-Zélande cramée qui venait de se faire rouster en Irlande. Et cette Australie. Non, mais arrêtons un petit peu, si vous de se gargariser. Je suis ravi et encore une fois, je vous dis pas que je suis pas content qu'on ait gagné.
On va aller faire un tour à Marcoussis cette semaine.
On est ravi d'avoir gagné. C'est une grande série. C'est une grande victoire.
On est ravi. Non, mais ça y est, à un an de la Coupe du Monde, c'est patrimoine national. On n'a plus le droit de rien dire sur l'équipe de France.
Par contre, parce qu'il y a Vincent qui appelle le 32-16 qui veut trancher
Vincent Moscato.
Non, pas Vincent Moscato, mais Vincent l'habitué de cette émission.
Simon, je trouve très sévère de dire que parce que l'équipe collectivement n'a pas été bonne, t'as le droit de dire que dans les grandes équipes, il y a quand même des joueurs de talent supérieur. Eh ben, je comprends ça insensé qu'un Penaud ou un Dupont sur un match où c'est moins bien collectivement fasse un exploit personnel.
Lorsque c'est un des top players qui te fait gagner le match sur un exploit, tu peux pas sortir du match en disant oh, on a fait vraiment un grand match.
Ça veut dire que t'as des top players. Ça veut dire que t'as les meilleurs joueurs.
Voilà, mais en fait, t'as fait un grand match. Merci.
Vincent au 32-16. Salut Vincent.
Oh là, sortez-le.
Ouais. Bonjour.
Je vais prendre ma voiture dans le coche, je vais jeter à Marcoussis. Hop, sur le terrain d'entraînement. Allez-y.
Alors, tu donneras aussi le DVD de l'émission.
Oui, oui.
Tenez, Simon, écoutez. Vincent, salut, un habitué, je le disais, de cette émission. Alors,
grande victoire pour les joueurs, victoire pour le staff pour moi. Alors déjà, je vais reprendre à Simon Dutin quand il me dit qu'il n'y a pas un top 10 australien. Je vais juste répondre Wes Skelton et Michael Hooper, qui sont considérés dans le top 5 mondial.
Hooper, ça...
un peu partout, je l'invite à regarder, mais bon.
Hooper, ça fait un an qu'il n'a pas joué, je suis d'accord avec toi, c'est un très grand joueur. Hooper, ça fait un an qu'il n'a pas joué. Skelton, ça faisait plusieurs années qu'il ne jouait plus.
Ça fait un an qu'il n'a pas joué, c'est une plaisanterie ou quoi?
Bah, il fait son retour là, non? Sauf erreur de ma part.
Il fait son retour parce qu'il a
non, il a pris une année
Argentine psychologiquement.
Il a pris une année sabbatique.
Il a fait les tests contre les Anglais. Faut pas dire.
Vas-y Vincent, avançons sur le débat.
J'aime beaucoup rapidement.
Vincent. Sur Damien Penaud, exploit individuel de Damien Penaud. Un exploit individuel pour moi, c'est quand on repasse la moitié d'une équipe en relief. Jalibert, il fait une passe qui est simplement magnifique pour décaler Penaud. Après des effets comme ça, Damien Penaud, il en plaît tous les week-ends et depuis qu'il est en équipe de France, je sais pas combien il en a marqué comme ça. Donc un exploit individuel, non, c'est une action collective qui est très bien amenée avec un décalage magnifique de Jalibert sur sa double sautée. Et maintenant, par contre, grande victoire pour les joueurs. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils y ont cru jusqu'au bout, alors que quand même, le match a été dur. Petite victoire pour le staff. Le staff nous explique qu'il fait l'équipe premium, on va remettre les joueurs qui sont en manque de rythme. Mais on voit que les joueurs en manque de rythme, c'est les premiers joueurs qui sont sortis. Les Camouan Rocky et Gaël Ficou, qui sont pas en forme avec le Racing depuis le début de saison, c'est les premiers joueurs qui sortent. Ntamack et Baye qui sont en retour de blessure. Bon, pour les premières lignes, c'est plus habituel, faut être honnête pour Baye. Même Ntamack qui sort aussitôt, je crois que ça faisait un moment qu'il n'était pas sorti aussitôt. Peut-être que le staff n'a pas non plus fait les bons choix dans le match. Pourquoi, quand on voit que l'Australie neutralise Dupont, pourquoi ne pas faire rentrer Ducu un peu plus tôt? avec son pote Jalibert, la charnière Bordeaux, elle est quand même pas dégueulasse en top 14. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi Makalou, qui est quand même même pas de player hors norme, ne pas le faire rentrer dans un match comme ça, dans un match aussi ferré où on a besoin d'impact et d'intervalle. Donc je dis peu, grande victoire pour les joueurs, parce qu'il fallait, sortir les doigts pour la chercher. Petite victoire pour Saf, parce que pour moi, cette équipe d'Australie, par contre, elle devait passer au moulinet, elle devait avoir une victoire plus large.
Ok, parfait, c'est très clair, c'est concis, c'est comme d'habitude. Merci Vincent d'avoir composé le 32-16. Vous êtes nombreux à nous appeler hein, au standard pour parler de ce débat, pour parler du 15 de France. N'hésitez pas, 11h45, ce sera votre moment. Vous venez affronter une GG, petite ou grande victoire pour vous, pour ce 15 de France. On se retrouve dans quelques instants. Merci à Wilfried Templier, évidemment, d'avoir été avec nous ce matin. On t'embrasse et on te retrouve tout au long de la semaine et la semaine prochaine pour ce match face à l'Afrique du Sud. Ce sera au stade Vélodrome, on en parlera dans les GG. On se retrouve dans quelques instants. Pour la punchline des GG signée de Zlatan sur Mbappé. À tout de suite.
Ici.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
9h34, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi avec Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat et Stephen Brun. Dans une petite dizaine de minutes, le zapping des GG avec notamment Caroline Garcia en demi-finale du Masters. Nous l'avons appris tôt ce matin. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas? Eh bien, vous me direz tout ça. Dieu a parlé et quand Dieu parle, on l'écoute. Même si Dieu est arrogant et porte un catogan, dans une interview accordée à Canal+, Zlatan Ibrahimovic a livré son sentiment sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, son nouveau statut au sein du club. Et comme d'habitude, c'est tranché, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Se lui a fatto scelta giusta per se stesso? No.
Est-ce qu'il a fait un bon choix pour lui? Non. Pour Paris, oui. Il a fait le bon choix pour le PSG. Pas pour lui, parce qu'il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Mais tu n'es jamais plus grand qu'un club. Mais quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l'argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D'une chose, ils en deviennent une autre. Et il est là le problème.
Et secondo me, le problème est là.
Zlatan Ibrahimovic, interviewé par Canal+. Vous avez entendu un petit morceau, c'est un petit peu plus long, évidemment. D'accord ou pas d'accord avec son analyse concernant Kylian Mbappé? Simon Dutin.
Pas d'accord.
Sarah Pitkowski.
Je suis d'accord. Mais quand même un peu mitigé. En même temps, j'ai pris la place de Denis, donc.
Oui, c'est ça.
C'est exactement. Ça
dans le
micro.
Non, mais le robinet. Je suis d'accord, mais pas sur tous les arguments avancés par Zlatan.
Pascal le connaît bien maintenant, le robinet d'eau tiède. Sachez-le, dès que Denis Charvet nous fait ça, on lui met un petit bruit de robinet. Fais attention à ce que ça ne t'arrive pas.
Oui, oui.
Pascal Duprat, d'accord ou pas d'accord?
D'accord.
D'accord. Stephen Brun.
Écoute, sur l'extrait choisi, pas d'accord. Sur d'autres choses qu'il a dit dans l'interview, d'accord.
Ok.
Robinet. S'il vous plaît aussi pour ce garçon.
Merci Pascal.
Non non, au moins c'est tranché, tu nous diras pourquoi. Bah Pascal, tu commences, pourquoi d'accord avec Zlatan?
Essentiellement sur le passage de l'entourage. Donc quand il dit que l'entourage est néfaste, je parle bien sûr de l'entourage d'Mbappé, puisque c'est de lui dont on parle, mais parce que j'ai l'habitude de le connaître et de le vivre, de le subir. L'entourage aujourd'hui est déplorable bien souvent chez les jeunes joueurs. Donc l'entourage d'un joueur comme Mbappé ne devrait pas prendre position dans la presse lorsqu'il s'agit de commenter les exploits ou la position de leur fils sur le terrain. Voilà, parce que je répète une chose qui est essentielle, Mbappé ne s'est jamais exprimé sur ce qui a fait le buzz, à savoir son envie de quitter le Paris Saint-Germain. Il s'est jamais exprimé, d'autres l'ont fait pour lui, ce qui a suscité ce déchaînement sur les médias. Donc l'entourage est néfaste, et là, à ce niveau, je dois reconnaître que Dieu a raison de le souligner.
Évidemment, Zlatan, il a raison de le souligner. Oui, Stephen.
C'était sur ce passage-là où j'étais d'accord avec Zlatan Ibrahimovic sur l'ampleur, l'importance que prend l'entourage des forts joueurs de foot. Je trouve ça catastrophique aujourd'hui que père, mère se prennent pour agent, conseiller, bref. Donc sur ce passage, j'étais d'accord. Maintenant, sur Zlatan qui critique le choix de Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Moi, je trouve ça toujours délicat. Alors, nous, on le fait très souvent ici, mais parce qu'on est journaliste, on est consultant. Je trouve ça compliqué qu'un joueur de foot se permette de dire ce qu'un autre joueur aurait dû faire sur sa carrière. Moi, je me rappelle que Zlatan Ibrahimovic, il est arrivé au Paris Saint-Germain aussi parce qu'il y avait de l'oseille à prendre à cette époque-là, et que c'était la construction d'un club. Il a pas choisi le Paris Saint-Germain pour le club, l'entité Paris Saint-Germain.
Zlatan. Si on se rappelle juste une précision, il était à l'AC Milan avec Thiago Silva, il est arrivé avec lui et l'AC Milan avait besoin d'argent, donc ils ont été envoyés au PSG, ils n'étaient pas forcément ravis.
Lui, il en a pris aussi, hein, Zlatan.
Oui, oui.
Et puis quand il dit qu'Mbappé est au-dessus de Paris Saint-Germain, je vous rappelle quand même que quand Zlatan est arrivé, alors aujourd'hui, on essaye de dire Zlatan, il arrive au Paris Saint-Germain, il a structuré ce club, il a fait passer ce club à un niveau professionnel, il a amené son professionnalisme.
Ce qui est vrai aussi.
Ce qui est vrai, mais Zlatan était quand même de temps en temps au-dessus de l'entité Paris Saint-Germain, en se permettant des choses plus ou moins très limites. Donc voilà, moi Zlatan Ibrahimovic, je l'aime bien, je m'en régale. Il est dans un personnage, il joue un personnage depuis 20 ans, 25 ans. Voilà, quand il y a des caméras qui sont sur lui, c'est l'acting Zlatan Ibrahimovic. Mmh. Donc il dit des choses intéressantes, mais parfois il dit des choses, voilà pour faire des punchlines, okay. Là, je pense que c'en est une.
Et il faudrait peut-être balayer devant sa porte, c'est ce que tu veux nous dire pour Zlatan.
Oui, un petit peu de temps en temps.
Simon Dutin,
d'accord avec lui. L'hôpital, la charité, la poêle, le poêlon, tout ça quoi, il faut arrêter les bêtises. Zlatan, il est un peu en fin de carrière, bon, il se nourrit sur le dos de la bête hein, évidemment. Mbappé, c'est la star du football mondial, on veut son avis. Pour rebondir sur ce que disait Steve, effectivement, il a structuré le club. Je vais pas résister, je vous refais l'anecdote que Mathieu Bodmer avait raconté. Mais c'est exceptionnel. Il arrive à l'hôtel, un des premiers déplacements qu'il fait avec le club, il est dans le couloir, il y a un des jeunes parisiens qui rentre la chambre d'à côté, qui a son sac sur l'épaule. Il dit, mais pourquoi moi j'ai pas mon sac? Et le jeune lui dit je sais pas, tu l'as pas pris en descendant du bus? Il dit attends. Il attrape son portable, il appelle Leonardo, il dit tu m'as fait venir dans un club où je dois porter moi-même mon sac en sortant du bus. Le lendemain, il y avait deux mecs qui étaient embauchés pour
à 8500 euros
pour porter les sacs. Non mais de qui se moque-t-on? Je veux pas être plus grand que le club. Bon, il a toujours cherché lui à être plus grand que le club. Il était parti à la Juve après l'Ajax. La Juve a été reléguée administrativement. Il a dit moi Zlatan ne jouera pas en Ligue 2. Il est parti du coup chez l'ennemi juré l'Inter Milan. Il a changé 7 ou 8 fois de club durant sa carrière. Il s'est encore exprimé sur Pep Guardiola, là, justement, à cette occasion, en disant que Guardiola, c'était en gros juste un mec qui ne savait pas gérer son ego et qui ne supportait pas que ses joueurs soient plus célèbres que lui. Et je suis désolé, certes, il y a des problèmes dans l'entourage, je suis d'accord, certainement toxique de certains joueurs. Ce qu'on peut reconnaître à l'entourage de Mbappé, c'est que ses parents conduisent plutôt pas mal, accompagnent plutôt pas mal sa carrière. Je pense que sa maman est quand même quelqu'un de très intelligent, qui sait très bien ce qu'elle fait, et on ne peut pas comparer l'entourage de Mbappé à certains entourages un petit peu plus toxiques. Par ailleurs, je ne comprends absolument pas la sortie de Zlatan.
Simon, tu sais que Pascal Dupraz fait la même chose à Saint-Etienne, il dit personne prend mon sac. On a dit non, bon, c'est pas grave.
Je vais le prendre alors. Vous embauchez personne? Non, bon d'accord. Sarah.
Je vais changer mon fusil d'épaule. Je suis pas d'accord en fait.
Ok.
Non, en fait, je suis d'accord.
C'est vrai que tu nous fais une Denis Charvet, là. Hein.
Oui, mais oui. Bah,
attention, est-ce qu'on a préparé
même
le.
Même Denis, il a jamais fait ça, je crois.
Voilà, Denis, vas-y, tu peux parler.
Denis,
vas-y. Non, mais parce que je suis d'accord.
Je vais un petit geyser.
Sur ce qui a été dit, certes, effectivement, l'entourage est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, mais c'est pas que pour Mbappé, c'est que pour tous les sports en général, où le joueur ou l'athlète est une source de revenus colossale et monumentale. Oui, on protège et que finalement, les entourages deviennent se créent des métiers. Je suis pas d'accord, parce que c'est là où Zlatan est absolument très très fort, c'est qu'en fait il reproche à Mbappé ce que lui-même a fait au PSG.
Exactement.
C'est fantastique quand il dit on a donné les clés à Mbappé du club, mais lui on lui a pas donné, il est allé les prendre. Lui il est venu le shipper. Et quand il dit effectivement quand il est arrivé au PSG et quand il part, il dit je me suis pas adapté au PSG, c'est lui qui s'était adapté à moi. En fait, il est en train de donner les reproches. En tout cas, signifier les reproches d'Mbappé que lui a fait exactement au PSG. Donc c'est là où je dis il est pas d'accord parce qu'il est d'une mauvaise foi monumentale, mais c'est le personnage. Voilà, c'était les deux petites choses que je voulais rajouter, mais je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit.
Ouais, tout ce qui a été dit, et c'est vrai que on peut reprocher ça à Zlatan, ce qu'il a fait. On peut aussi se dire que Mbappé fait la même chose. Mais vous avez aussi raison de souligner que sa deuxième partie est quand même très intéressante sur les entourages des joueurs. Alors, je connais pas l'entourage personnel de Zlatan Ibrahimovic, mais c'est vrai qu'il dit parce qu'il parle pas juste des copains autour, il parle de la famille. Oui. Dans une famille, et il cible évidemment la famille d'Mbappé, parce que dans une famille, eh bien, le papa, la maman, ils deviennent avocats, ils deviennent agent, et c'est évidemment un petit peu ce qui se passe autour de la famille de Mbappé.
Mais encore ça, qu'ils deviennent
avocat ou qu'ils deviennent agent, puisque c'est permis, pourquoi ne le ferait-il pas? Ça, à la limite, c'est même pas, on peut pas, c'est pas répréhensible de mon point de vue. Par contre, ce qui est répréhensible, c'est d'alimenter, la presse pour créer le buzz ou pour faire passer des messages subliminaux ou non subliminaux.
Mais c'est pas Mbappé,
c'est déplorable. Ça, c'est déplorable parce qu'en fait, au bout du compte, tu aimes ton gamin, mais ça nuit à l'évolution de ton gamin.
Oui, mais il le voit pas comme ça.
Oui, mais est-ce que c'est pas aussi, je parle de Mbappé parce que c'est notre sujet, mais est-ce que c'est pas aussi le joueur en question qui fait passer ses messages via son entourage, Pascal, toi qui connais certainement mieux
tout,
ça que
on
moi.
On peut tout entendre. Je ne sais pas, mais toujours est-il que moi je vois une chose, c'est qu'Mbappé sur le terrain, il est exemplaire et il le montre. Depuis, je me souviens quand il y a à peu près un mois ou trois semaines que ce buzz a été créé. Mbappé voulait partir du Paris Saint-Germain. Depuis, regardons ses performances. Ses performances, elles sont intouchables. Il a marqué un but génial dernièrement. Il se bouge, il dit pas un mot, il est souriant. Franchement, il est exceptionnel. Mais malheureusement, je sais pas, j'ai pas de conseils à donner à Mbappé, mais si Mbappé envoie ses parents pour passer des messages, je pense qu'il devrait leur demander d'en faire l'économie. Parce que comme ceci, il a pas besoin de ses parents, puisqu'apparemment, tout le monde le dit, il est intouchable au Paris Saint-Germain, il est au-dessus de l'institution, donc il n'a pas besoin de ses parents pour faire passer le message.
Le mot de la fin, Stéphane, vraiment.
Et si on élargit aux parents, aujourd'hui aussi, t'as un vrai fléau, c'est que dans une carrière, parfois t'as les femmes ou les copines qui se mêlent le truc, on voit des messages sur Instagram, mon mari joue pas, je trouve ça catastrophique.
Ouais, ou les vieux copains qui veulent gratter un peu d'oseille.
Moi, à mon petit niveau, jamais j'aurais accepté que ma femme ou mes parents aillent voir le coach pour dire il joue pas. Je trouve ça hallucinant. Et dans le tennis, bon, ça reste encore mieux placé que moi pour parler du tennis où les parents ont une implication fantastique. Moi, je trouve ça, je sais pas, moi.
Fantastique ou pas, hein.
Non, fantastique, c'était
ironique.
Oui. Moi, je trouve ça catastrophique qu'aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui se permettent d'entrer dans la carrière
On est issu d'une ancienne génération. Je pense que ça s'est démultiplié et c'est devenu tellement pratiqué que ça ne choque plus personne, que les entourages soient...
Et puis en plus, Zlatan s'est un déraciné, ses parents ont divorcé, il avait 2 ans, il venait d'émigrer en Suède, il s'est construit tout seul, et effectivement, c'est l'inverse du modèle du jeune accompagné par une structure solide.
Les copains, on va devoir arrêter ce débat, même si vous aviez envie de continuer, j'imagine. J'ai l'impression, Sarah, ce que tu nous dis, on est un petit peu des vieux cons, ce serait dommage dans cette émission, on est là, on est sage, vous êtes expérimenté.
On n'est pas vieux.
Peut-être...
Tu peux accepter, toi, par exemple, que ton épouse dise à Karim Mais Jarry, c'est scandaleux, Christophe Cessieux sont encore en présentation des grandes gueules du sport.
Eh ben, sache que quand quelque chose fuite, c'est bien souvent madame.
Ah, d'accord. Voilà.
J'envoie madame au feu, parce que moi, je ne suis pas assez courageux. 9h46, on se retrouve dans quelques instants, le zapping des GG, Caro Garcia notamment, ou encore Christophe Galtier qui nous parle des mondialistes et de sa gestion. Ça fait écho à notre débat d'hier. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h50, de retour dans les grandes gueules du sport avec Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Stephen Brun, Pascal Dupraz ce matin à partir de 10h. Dans une dizaine de minutes, on ouvre le dossier Igor Tudor qui affronte ce soir l'Olympique Lyonnais, enfin son équipe. L'OM affronte l'OL. Joue-t-il sa tête face à Lyon? Ce sera notre débat et les GG ne sont pas d'accord. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Caroline Garcia en demi-finale du Masters. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Pascal Dupraz.
On s'en fout pas.
Stéphane Brun.
Ah non, on s'en fout pas.
Ok, Sarah Pitkowski.
Je m'en fous. Non, je m'en fous.
Ok. Je m'en fous. Victorieuse de Coco Gauff, puis battue par Iga Świątek, Caroline Garcia a décroché sa place en demi-finale du Masters en s'imposant face à la Russe Kazatkina. difficilement. 4-6, 6-1, 7-6, un très beau match. Et la Française affrontera la Grecque Maria Sakkari pour une place en finale. À noter que c'est la deuxième demi-finale en deux participations pour notre Française, après celle en 2017 où elle s'était inclinée contre Venus Williams. On s'y intéresse forcément. Pourquoi?
Bah parce que Winning Ugly et Grande Victoire, ça marche aussi pour Caroline Garcia. Voilà. Elle est passée par les montagnes russes pendant tout ce match et cette ultra agressivité qu'elle développe. Alors c'est toujours sur la tangente, hein. C'est-à-dire qu'au tennis, quand tu prends beaucoup de risques et que tu joues près des lignes, bah elle peut être juste dehors. Et hier, cette ultra agressivité qu'elle a tenue jusqu'au bout lui a permis d'aller chercher cette victoire qui est très très satisfaisante et qui récompense une année incroyable. Elle est montée de, voilà, elle était 72 ou 76, ouais, elle est montée à la 6e place mondiale. 3 victoires cette saison sur 3 surfaces différentes face à une joueuse qui compte remarquablement bien. Voilà, c'est une belle récompense pour une joueuse qui, à 29 ans, eh bien, commence à s'épanouir et à prendre conscience qu'elle a un tennis et qu'elle va pas en changer.
Une voilà. Récompense, ok. Enfin, elle va pas changer. Elle vient de changer d'entraîneur, en tout cas.
Oui, son tennis.
Oui, exactement. Son tennis, mais son entraîneur est peu. Oui. Une récompense, ok, mais on n'a pas envie qu'elle s'arrête là. Sakkari, c'est à sa portée en demi-finale.
Oui, c'est à sa portée. Même si la Grecque est une très bonne joueuse de tennis, maintenant Caro Garcia, elle a tout à fait la possibilité de battre cette joueuse-là, qui n'est pas un joueur. Pour moi, il y a une joueuse aujourd'hui sur le circuit qui est au-dessus des autres, qui est Iga Świątek.
Je le disais, elle a perdu contre elle, et pourtant elle fait un très bon match. Mais elle est injouable.
Elle est injouable, même si Caro l'a battue il y a quelques mois chez elle en Pologne, il me semble. Moi je trouve ça c'est une belle performance. Je crois que c'est la troisième française en demi après Françoise Dur et Marie Pisse qui l'ont fait. Elle joue bien au tennis, elle a bien géré la tempête sur la séparation avec
je suis même pas sûr que ce soit une tempête.
Un petit coup de vent, mais bon, c'était quand même très surprenant de notre côté de voir son coach partir. Écoute, c'est très bien, maintenant il faut aller, j'espère, une finale. Et puis on te rappelle, toi, que ce sujet là avait désintéressé beaucoup de monde, JC, dans cette émission. Il n'y a que toi qui était intéressé.
Exactement. Donc, est-ce un événement, on se posait la question.
Si jamais Caro Garcia gagne le Masters la semaine prochaine, on fera un débat,
on va le resservir à Christophe Cessieux notamment.
On peut juste, quand même, on est sympa, préciser à JC que c'est le Masters. Il n'y a que des bonnes joueuses, en fait, les 8 meilleures du monde, quoi. Donc Sakkari, c'est une très très bonne joueuse. Je sais pas, tu demandais si Sakkari c'est une bonne joueuse, on est au Masters.
Alors c'est bien parce qu'il
n'y a pas de wildcard, il n'y a pas d'invitation.
Non, mais
quoi.
Alors, c'est très sympa parce que pour quelqu'un qui demandait à ce qu'on ne déforme pas ses propos dans le débat rugby, est-ce que on va me repasser la bande, est-ce que j'ai dit Sakkari c'est une bonne joueuse, Stéphane? J'ai pas dit ça.
C'est jouable.
Est-ce que c'est jouable pour elle?
Très bonne joueuse, quoi. Voilà.
Oui, mais je me doute bien, c'est les 8 meilleures. Oh!
Il vaut mieux jouer Sakkari que Świątek quand
je me demande. Je me demande si je préfère pas Christophe Cessieux. Pourtant, on partait de loin, mais finalement. Deuxième information. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Christophe Galtier, la gestion des mondialistes. On en parlait hier. Est-ce qu'il faut les préserver, les faire jouer? On s'en fout pas. Simon Dutin.
Allez, je m'en fous.
Pascal Duprat.
Non, je m'en fous pas.
Ok, Stephen.
Allez, je m'en fous.
Ok.
Je m'en fous parce que je ne sais pas.
Ok, bah alors Pascal Duprat va réagir à ces propos de Christophe Galtier. On rappelle que Lionel Messi, par exemple, touché et resté aux soins, il ne jouera pas cet après-midi face à Lorient. Christophe Galtier sur ce choix des mondialistes.
Si un joueur me dit « je ne veux pas jouer, j'ai peur » et que, à travers l'échange et tout ce que je peux lui dire, je vois qu'il y a vraiment plus qu'une grosse retenue, bah ce joueur-là, bah il s'écarte et ça profite à quelqu'un d'autre.
Ça tombe bien que tu aies envie de parler de ce sujet, parce qu'hier, Pascal, tu étais dans le camp de « il faut les faire jouer ». Le discours de Christophe Galtier, il t'inspire quoi ?
Non, mais en fait, dans ce que je disais hier, il y avait aussi la concertation avec les joueurs. Ça, on doit pas l'oublier, on doit pas en faire l'économie. Si je me rappelle bien, la question, c'était « fallait-il donc
les préserver ou les faire jouer ?»
Les stars. Donc moi, je posais la question « qu'est-ce que vous entendez par star ?» Parce qu'il y a 700 et quelques joueurs qui vont participer au Mondial. Et je disais une chose importante, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il y en a 14 qui vont faire le Mondial. Donc vous allez voir certains en leur disant « toi, t'es pas une star, donc tu joues. Par contre, toi, puisque t'es une star, tu joues pas. » Donc je plaçais le débat à ce niveau-là. Cela étant, dans sa prise de position, Christophe, il parle également d'une chose importante, c'est qu'il pense, comme beaucoup de coachs, que c'est pas très bon, alors qu'ils n'ont qu'un match par semaine jusqu'au Mondial, de préserver les joueurs. Et il y a rien de mieux que la compétition pour aborder la future compétition, l'excellente compétition que sera la Coupe du Monde dans 3 semaines.
Exactement. Bah voilà, tout est dit sur. De toute façon, personne ne voulait parler.
J'aurais pu coacher Pascal.
Mais bien sûr.
Il est bon dans la gestion.
On lui a toujours dit. On l'adore,
oui,
notre
oui,
Pascal.
C'est les joueurs qu'il me faudrait un peu, tu vois.
Ouais. Pascal, t'as les petites touches là ou pas? Ou non, c'est calme plat.
Écoute, tout va bien. J'ai surtout beaucoup de plaisir à participer à l'émission ce matin.
Oh là là, de
vous pouvez pas vous imaginer combien je suis. Je prends mon pied d'être avec vous, donc laissez-moi mon plaisir.
Bah, exactement. Ouais, tu prends ton pied, mais tu prends un peu moins d'argent, par contre.
Franchement, par rapport à Saint-Etienne, c'est bien payé, les grandes gueules. 9h56, on se retrouve dans quelques instants autour d'Igor Tudor. Joue-t-il sa place ce soir face à Lyon? Les GG ne sont pas d'accord. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.